Cause commune, la voix des communs.
C'était Sharon 1962, un documentaire de Muriel KS dans l'histoire en roue libre sur Cause commune 93.fm. Merci à Muriel pour cette proposition. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques et les différents intervenants et intervenantes de ce documentaire sur la fiche podcast de l'émission Histoire en roue libre sur cause-commune.fm. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne nuit ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. À bientôt sur Cause commune.
Cause commune.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également la musique libre. Les rencontres hivernales du Libre de Saint-Sergue en Suisse, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique des Costi intitulée « La fourberie du loup concentrée recroquevillée » et la chronique pituite de Luc « Il nous faudrait une bonne guerre ». Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Julie Chaumard, administratrice de l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous y trouverez une page consacrée à l'émission du jour et avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 24 février 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun, Radio Broussailles, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, nous avons Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Julie.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et des services respectueux des utilisatrices et des utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. C'est la chronique à cœur vaillant La Voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Le thème d'aujourd'hui est la fourberie du loup concentré recroquevillé. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc de l'écouter, on se retrouve juste après.
Hello Laurette, faut que je te parle de Libre à lire. On en a déjà causé, mais il y a un sujet publié qu'il faut que l'on évoque ici dans cette chronique.
Laisse-moi deviner le sujet qui t'a interpellé plus encore que les autres. Si je regarde les derniers textes publiés en janvier 2026, je dirais organiser la désescalade numérique, ou encore le livre et le libre, ou peut-être même libérer, délivrer un escape game pour découvrir les logiciels libres.
Alors presque, mais ce n'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Alors ils sont bien ces textes, mais celui que je veux partager avec toi porte le questionnant doux titre suivant, passer au libre, c'est changer le monde ? C'est vraiment chouette ce que ça raconte. On va sublimer et synthétiser le contenu à l'occasion de cette chronique.
C'est alléchant en tout cas. On t'a déjà dit que tu avais une vraie compétence pour introduire des chroniques et faire que les gens restent plus de quelques secondes à écouter.
Attends, attends, nous ne sommes pas encore à l'acmé du paroxysme du point le plus haut du sommet des abysses. Ce texte est criant de vérité et admirablement bien écrit par le groupe Transcription de l'April. À tel point d'ailleurs que ce style incomparable a généré, tiens-toi bien, je te le donne Émile, l'envie à un certain Nicolas Vivant d'en faire une conférence gesticulée.
Juste pour être sûr qu'on parle du bon texte, tu me confirmes que le pitch c'est... Pour une collectivité comme pour une entreprise, le passage au logiciel libre implique une adaptation... parfois importante de l'organisation. Préparation budgétaire, reporting, commandes, contrats de maintenance, recrutement, stratégie de migration, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et un fonctionnement à revoir en profondeur.
C'est exactement ça, c'est palpitant ce texte, et Nicolas Vivant dans l'interprétation qu'il fait dans la conférence gesticulée est plutôt bon. Il y a même un lien direct sur le site de Libre à Lire qui permet d'aller voir la vidéo.
Il y a dans l'air cependant pour moi comme une petite disruption cognitive. Tu as relu récemment le principe du site Libre à Lire, papa ?
Alors pas besoin, je leur fais confiance totale. Je suis certain qu'il n'y a pas de faute. Le groupe mené dans la joie et la bonne humeur par Marie-Odile est devenu expert dans l'évitement des fautes et dans le bannissement des syntaxes bancales.
Je parlais plutôt du fond, en fait. Je lis sur le site internet, juste en dessous du titre, « Le groupe Transcription de l'April transforme en texte des enregistrements audio et vidéo » traitant du logiciel libre et de liberté informatique en général.
Mais alors, ça voudrait dire que la conférence gesticulée de Nicolas Vivant a été faite avant que le texte ait été publié sur le site Libre à Lire ? Ok, ça change pas grand-chose fondamentalement, cette fiction écrite avant ou après est vibrante et criante de réalisme.
Oui, alors peut-être justement parce que ce n'est pas une fiction ?
Impossible. Fake news. Bullshit, racontard à mémé. Ça ne résiste pas longtemps à la réflexion, ton truc. Si la ville d'Échirolles était parvenue à atteindre de tels objectifs, ça voudrait dire que c'est possible. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus d'autres collectivités qui ont fait ce grand pas en avant, étant donné tous les avantages que cela apporte et la preuve indubitable que ça fonctionne ? Tu réponds quoi à cet argument imparable, malin et talot ?
Argument talot, je l'ai. Je désopile et je réponds à ton ressenti d'incohérence. Bon, d'abord, Échirolles n'est pas la seule ville qui se soucie de ça et qui met en œuvre des solutions. Depuis plusieurs années, il existe le label Territoire Numérique Libre, qui donne à voir de belles initiatives. C'est un label, justement, fait pour les collectivités territoriales qui s'engagent dans une démarche de transition numérique.
Ah bah oui, en fouillant le site, on compte à cette date sans une structure labellisée plus ou moins avancée dans leur transition.
Eh oui, et d'ailleurs, si t'écoutais les émissions Libre à vous de tes camarades, tu saurais que les opus 49, 50 et 262 traitent de ces questions pour les quatre villes de Nancy, Fontaine, Grenoble et Lyon.
Bon, ok, Échirolles n'est pas la seule. Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de collectivités que ça ? Pourquoi autant d'entre elles adorent encore payer la dîme à Microsoft et subir les augmentations de tarifs sans pouvoir maîtriser budgétairement la question ? C'est bizarre quand même, non ?
Bon, t'arrêtes de faire l'andouille en faisant semblant de découvrir tout ça et on passe en revue les points importants de son intervention, s'il te plaît.
Bon, d'accord. Bon, et en plus, ça m'épuise ce jeu d'acteur. Ça demande beaucoup de concentration, tu sais. Et pour se mettre dans la peau du personnage, c'est pas...
Ouais, j'imagine bien. Bon d'abord, ce qu'il faut bien appréhender, c'est cette question du temps long. C'est un point qu'on a déjà abordé dans nos chroniques d'ailleurs. Je nous cite à cette occasion de manière très succincte, question du temps long.
Belle citation, en effet, profonde et démonstrative. On pourrait dire aussi, Paris ne s'est pas fait en un jour. En l'occurrence, Nicolas Vivant évoque une démarche engagée depuis près de 5 ans désormais. Oui, il faut savoir prendre le temps à contre-courant des urgences.
J'aime bien aussi toutes les étapes qu'il cite pour bien rater son passage au libre. Après tout, savoir ce qu'il faut éviter est précieux et permet de ne pas repasser par des étapes où d'autres ont déjà subi à grosses gouttes. Et en plus, il démonte quelques idées reçues, c'est toujours sympa.
J'ai particulièrement apprécié le fait d'éviter les objectifs chiffrés et les dates butoirs. Il a finalement adopté, avec son équipe, la technique agile du loup concentré recroquevillé. Il sait se faire souple et adapter la stratégie. Si vous n'avez rien compris à cette réplique, réécoutez les 35 chroniques précédentes.
Oui, au moins 3 fois chacune. Bon, et dans les points pour réussir un passage au libre, par contre, il préconise d'être fourbe. Je commence à mieux comprendre pourquoi tu travailles à accompagner des transitions. Oui, c'est pour assouvir ta passion de la fourberie.
Mets tes escarpins et passons aux idées reçues, veux-tu ? Il y en a plusieurs, mais celle sur la résistance au changement fait écho à mes préoccupations du moment. Je cite, « Il ne faut pas immédiatement changer les outils utilisés par les gens, mais plutôt se focaliser sur les besoins qui ne sont pas encore couverts. Comme il l'explique en détail, l'apport de nouvelles réponses à des besoins qui n'étaient pas couverts évite les sempiternelles comparaisons avec les outils utilisés couramment. »
Allez, on laissera les gens lire les détails très riches et appuyer sur l'expérience que Nicolas Vivant partage, et on saute directement à une anecdote tirée du paragraphe sur les retours qui font plaisir.
Mais c'est qui décide dans cette chronique? Rappelle-moi. Bon, donc je reprends. On laissera les gens lire les détails très riches et appuyer sur l'expérience que Nicolas Vivant partage, et on saute directement à une anecdote tirée du paragraphe sur les retours qui font plaisir.
Ouais, bof, moi j'aurais déroulé toute la présentation, mais d'accord, bonne idée.
C'est l'histoire d'une des personnes membres de la collectivité qui se porte volontaire pour passer sous GNU Linux. Bonne nouvelle et belle initiative de sa part.
C'est ça. Sur l'intranet de la collectivité, un appel à volontaires pour passer à Linux avait été publié et il suffisait de remplir un formulaire nom, prénom, oui, je souhaite changer, pour signaler son intérêt.
On notera en passant que fidèle à sa volonté d'être tranquille, recroquevillé, fourbe et concentré, le service informatique n'a pas d'objectif exclusif. Les deux systèmes d'exploitation cohabitent au sein de la collectivité.
Mais pourtant, c'est le drame. Le service informatique rejette la demande. Je cite, le service a refusé. Ils ont fait une longue réponse d'une page qu'ils m'ont mise en copie, et la réponse était vraiment très bonne. Il est des cas où, malheureusement, nous sommes obligés, malgré tout, blablabla.
Mais pourquoi donc? Dans mes grandes prêches dans le désert pour aller vers des systèmes informatiques libres et émancipateurs, quand j'ai un ou une volontaire, j'évite pour commencer de lui opposer une fin de non-recevoir. Je la cajole la personne, je ne la lâche plus.
Oui, un peu trop parfois même, non? Tu penses pas que tu saoules des fois?
Oui, mais toi, tu es ma fille, c'est pas pareil. Bon, et cette pauvre R abandonnée a-t-elle choisi de quitter la collectivité par dépit?
Non, mais le fin mot de l'histoire du poteau rose et du poteau d'arrivée de ce refus des Chiroles a été révélé. Point d'ostracisme ni de discrimination. En fait, arrivée 6 mois avant, cette personne était déjà sous environnement libre. Truc de zinzin. Et elle s'était rendue compte de rien.
Alors même si Nicolas évoque un travail des services pour renforcer encore la convergence déjà forte de la distribution GNU Linux Zorin OS avec Microsoft Windows, cette anecdote tord le cou à l'argument des changements d'habitude qui seraient trop rudes pour une transition.
Et en plus, c'est pas une fiction. Bon, il va falloir qu'on conclue vite, mon papounet.
Oui, mais j'ai vraiment pas eu le temps de finir la chronique cette fois.
Je pense que tu peux copier-coller la conclusion de notre 3e chronique, les gens ont dû oublier depuis, c'est ok.
Tu as raison, ma puce au silicium. On va conclure en disant qu'il faut bien prendre soin de ce commun qu'est Internet et que nous devons toutes et tous contribuer à préserver ses bons côtés. En attendant, poutou à toi.
Poutou papounet.
Belle conclusion. Nous venons d'écouter la chronique de Laurent et Laurette Costi. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons le sujet principal de l'émission qui porte sur les rencontres hivernales du libre de Saint-Sergue en Suisse. En attendant, nous allons écouter une musique composée par Sick qui a participé aux rencontres hivernales du libre et que vous entendrez tout à l'heure. On écoute Girlfriend par Sick et Small. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Thank you. venons d'écouter 2 minutes 30 de la musique Girlfriend par Sick & Small, disponible sous licence libre CC BY SA 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les rencontres hivernales du Libre de Saint-Sergue en Suisse. Aujourd'hui, nous n'avons pas de personnes invitées au studio. C'est le micro de Libre à vous qui s'est déplacé en Suisse à Saint-Sergue les 24 et 25 janvier dernier à l'occasion des rencontres hivernales du Libre. Nous y avons interviewé plusieurs personnes intervenantes pour des conférences ou des stands d'information et de partage. Vous allez pouvoir écouter 8 interviews avec des sujets variés dont je vous donnerai les détails au fur et à mesure. Les rencontres hivernales est un événement annuel. Cette année 2026, c'était la 10e année. On y croise développeuses, artistes, hébergeurs, militantes, étudiants, ingénieurs et citoyennes engagées. Pendant 3 jours, dans un cadre convivial, la communauté du Libre prend le temps de penser et de transmettre. Cet événement est ouvert à tous et à toutes et j'ai pu y croiser des personnes qui rencontraient la communauté libriste pour la première fois. L'accueil est chaleureux et l'on ne s'ennuie pas entre démonstrations, discussions, ateliers et conférences, avec des moments conviviaux comme les repas. On peut également dormir sur place et l'accès en train est très bien desservi depuis Genève ou Lausanne. Alors pour démarrer, je vous propose une interview qui s'intitule « Les jeunes et le logiciel libre » avec Léon Romanens. Léon est étudiant en bachelor d'ingénierie en système embarqué à Genève, passionné par l'électronique, la programmation et la radio. Il est membre d'un club de radio amateur. Il pratique la programmation depuis l'adolescence et défend le logiciel libre pour sa transparence, sa réparabilité et son accessibilité. Il utilise un dual boot Windows Ubuntu et cite KiCad et Blender comme outils libres. On écoute Léon. Je suis avec Léon Romanens, c'est ça?
Romanens,
voilà, c'est l'accent. Donc Léon, est-ce que... Alors, donc, tu es en bachelor, c'est ça ce que tu m'as dit?
Oui, c'est ça. Je suis en bachelor à l'EPI en ISC pour devenir ingénieur en système embarqué.
Et dans quelle ville, ça?
C'est à Genève. C'est pour ceux qui voient, c'est juste à côté de la gare.
Et alors, t'as dit en système embarqué?
Ouais.
C'est quoi?
C'est en gros, bon, je vais pas donner la définition officielle, je la trouve ambiguë, mais pour moi, ma définition, c'est genre la programmer, mais plus orientée électronique. C'est pas programmé, justement, contrairement à l'informatique qui est programmé des applications groupées PC, là, c'est vraiment un truc, par exemple, pour être dans le thème, un émetteur radio qui aura un petit software, ça c'est du système embarqué.
Ok, alors, tu dis pour être dans le thème parce que tu m'as dit que tu faisais partie d'un club radio, c'est ça?
Ouais, c'est bien ça.
Comment il s'appelle?
Je fais partie, ouais, du club HB9G à Genève.
Et c'est un club radio amateur?
Oui.
Et alors, ici, tu es ici dans le cadre des rencontres hivernales du Libre avec une association qui s'appelle IABC, qui eux aussi font de la radio?
Oui. Ouais, c'est une association qui est assez proche du club et ils font beaucoup de trucs, entre autres un réseau qui s'appelle Amnet, c'est un truc assez cool où ils ont plein de tout. Ils ont plein de relais qui permettent, si on s'y connecte, d'avoir un sorte de réseau internet parallèle. Et bon, dans ce cadre, ils sont là pour faire une présentation sur une initiative de radio secours. Rodolphe la présentera bien mieux que moi.
Oui.
Mais bon, mais c'est en gros une sorte d'application pour pouvoir centraliser qui a quoi quand il y a une situation qui Moi, je le dis, une rupture de normalité, donc une catastrophe, comme ça.
Ok, donc par les ondes.
Ouais.
Ok. Et donc, toi, Léon, donc on a bien compris que les systèmes embarqués, la radio, tu aimes la technique et la programmation. Et donc, tu aimes aussi, tu es aussi sensible au logiciel libre.
Oui. Oui. Ouais, justement, surtout parce que j'aime bien du coup voir comment le logiciel il marche. Et bon aussi, bon, tout le monde va dire ça, mais j'ai pas envie de payer 3000 balles pour mes logiciels. Donc bon.
Et dans le logiciel libre, open source aussi, donc on peut voir comment ça marche. C'est ça ce que tu veux dire quand tu dis que tu aimes voir comment ça marche?
Ouais, ben on peut voir soit parce que ça nous intéresse, ou bien des fois il y a des bugs, il y a des choses où ça marche pas correctement. Du coup, on peut aller voir comment c'est fait. Et on peut. Et bon, si on a vraiment besoin de quelque chose et qu'on a beaucoup de temps, on peut aller modifier.
Oui, on peut modifier. Et donc toi, tu fais de la programmation, donc tu sais rentrer dans le code source et modifier?
Oui, je l'ai pas fait souvent parce que bon, le temps.
Oui.
Beaucoup de temps, mais oui, ouais, ça m'est arrivé. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais il y a quelques jours pour un outil, il y a un outil où ça a des valeurs, elles étaient interprétées bizarrement, et du coup j'ai été voir dans le code et je me suis dit, ah ok, c'est fait comme ça. Et du coup, j'ai pu faire marcher.
Waouh! Et tu fais du code depuis quel âge?
Dur à dire. Et puis, quoi, 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à faire de l'Arduino. Après, c'était compliqué. J'arrivais que à copier-coller du code. Mais après, je me suis orienté vers le développement web. J'ai fait pendant à peu près tout mon cycle. Et bah, quand je suis sorti, après, j'ai commencé à m'orienter vers du Python pour faire des jeux avec Pygame. Ouais. Puis, micro-Python pour faire du hardware. Et après, du coup, j'ai commencé à faire vraiment la programmation hardware, microcontrôleur.
Ok. Et tu as des amis avec qui tu fais ça, ou tu es à la maison? Comment ça se passe?
La plupart du temps, je suis à la maison. Il y a mon meilleur ami, Ben, où je l'ai rencontré. J'étais au CFPT avant pour faire mon CFC d'électronicien. Et je l'ai rencontré là-bas et on a fait quelques projets ensemble. Il est franchement sympa. Okay. Et sinon, même sinon, la plupart des temps, mes projets, je les fais en solo.
Donc tu es aussi sensible au logiciel libre et tu m'as dit que tu avais un dual boot. Alors qu'est-ce que c'est ça, un dual boot sur ton ordinateur? Tu pouvais faire donc tu pouvais utiliser un système GNU Linux, donc Ubuntu t'as dit.
Oui.
Et aussi un autre système propriétaire, mais comme ça tu peux avoir les deux sur ta machine, c'est ça?
Ouais, c'est ça, vu que j'ai encore à la fois, parce que il y a certains logiciels et aussi l'habitude. Ça fait pas longtemps que j'ai dual booté tout ça, donc j'ai encore beaucoup l'habitude de Windows, donc
okay.
Je peux difficilement m'en passer. Mais c'est bien, des fois il y a quand même besoin d'Ubuntu, et même des fois sous Windows, j'utilise WSL quand j'ai besoin. Du coup, bon, WSL c'est genre dans Windows pour ouvrir une ligne de commande où c'est vraiment un petit système Linux intégré.
Ok. Et alors pourquoi tu as un dual boot où... Avec Ubuntu, qu'est-ce qui t'intéresse dans Ubuntu? Pourquoi tu as ça?
Un choix, mais bon, c'est plus parce que j'avais besoin de quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. Par exemple, dans ma classe, j'ai un background d'électronicien, la plupart ont un background d'informaticien. Mon groupe d'amis, ils sont tous en train de se dire « Ah, mais t'as pas bon, rigolant, mais t'as pas Arch Linux, c'est trop nul. » Mais bon, mais ça...
Arch Linux,
par exemple, c'est ce qu'on appelle une distro Linux, mais du coup, il faut beaucoup de maintenance et c'est très compliqué, alors que Ubuntu est plus adapté aux gens qui n'ont pas fait beaucoup, qui sont sortis par exemple de Windows, où faut pas connaître les commandes, savoir, ah, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ça marche assez bien tout seul.
Et du coup, t'as des amis qui ont, comme tu dis, Arch Linux, ça?
Oui.
Ils disent, ah, toi, t'es sur Ubuntu.
Ouais.
Et toi, tu penses que ça serait bien que tous les jeunes ou tout le monde soit sur à terme sur Ubuntu, qu'on se passe, peut-être qu'on soit un peu plus libre.
Ouais, bah, je pense justement, là, c'est Ubuntu et tout ça, c'est en train d'arriver vraiment à une maturité où c'est plus comme avant où il fallait être un expert. Maintenant, c'est presque comme Windows. Tout le monde peut l'utiliser. Même si je trouve, il y a des choses dans... Par exemple, l'histoire Ubuntu, ils ont commencé à l'introduire dans les écoles. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment mal fait leur choix. Ils auraient pu, parce qu'il y a des, même Ubuntu, on peut le personnaliser. Par exemple, on peut personnaliser pour que ça ressemble à Windows, des choses comme ça. Mais je pense qu'ils ont fait un choix. Ils ont mis Ubuntu comme ça, sans transition, avec une UI totalement différente, en plus avec plein de trucs restrictifs, et donc ça fait peur aux gens. Mais je trouve, franchement, les gens, ils devraient commencer à peut-être essayer de switcher.
Je vois que tu utilises le mot UI, donc ça veut dire le design.
Ouais, l'interface utilisateur.
D'accord. Et pourquoi tu penses que on devrait donc utiliser des systèmes comme GNU Linux ou Ubuntu? Et plus Windows.
Bon, c'est plus une croyance personnelle, mais je trouve, je pense que les gens seront d'accord, que les grandes entreprises sont en train, avant ils faisaient des bons trucs, mais là ils sont en train de s'approcher de juste vouloir le profit et de faire des choses de moins en moins bien. Même Windows, il y a le passage direct à Windows 11, et ça, le fait d'ajouter des features d'intelligence artificielle, le fait d'avoir des trucs qui marchent mal, qui sont mal faits, juste parce qu'ils veulent intégrer des choses, alors qu'il n'y a pas besoin. Alors que Linux, finalement, ça reflète déjà en plus ce que les gens ont vraiment besoin.
Bon, Léon, on était très heureux, je suis très heureuse de t'avoir interviewé. Je te remercie d'avoir accepté.
Avec plaisir. Merci de m'avoir interviewé.
Et bonne conférence aujourd'hui.
Merci.
Alors, Léon a bien aimé l'exercice de l'interview. Je lui ai donc proposé de les réaliser avec moi. Il m'a donc aidé à trouver des personnes à interviewer et à poser des questions. Et il m'a accompagné pendant ce samedi et même le dimanche pour interviewer les autres interviews que vous allez pouvoir écouter. Nous avons fait donc ça tous les deux. C'était bien sympathique. Nous enchaînons avec le sujet « Surveillance des conditions d'utilisation ». Avec Marie-Pierre. Marie-Pierre nous présente Open Terms Archive, un outil libre qui archive et compare les changements des conditions d'utilisation des services en ligne. Marie-Pierre décrit comment l'outil permet d'agir concrètement, en devenant par exemple un levier de vigilance démocratique, notamment contre les publicités politiques illégales sur LinkedIn. Alors, on écoute ça avec Marie-Pierre. Et maintenant, j'ai pu retrouver Marie-Pierre qui a fait une conférence tout à l'heure. Donc Marie-Pierre, quelle conférence tu as fait tout à l'heure ?
En fait, j'ai fait une conférence sur Open Terms Archive.
Open Terms Archive ?
Donc en fait, c'est un site, ça a été financé par le ministère des Affaires étrangères en France. Et ça permet en fait de monitorer les changements dans les termes légaux des plateformes que vous utilisez. Les plateformes en ligne, donc typiquement vous n'utilisez plus X, mais maintenant si vous aviez utilisé X, tout à coup il y a eu des changements, vous voulez le savoir. La plateforme ne va pas vous le dire forcément qu'il y a eu un changement. Donc là ça capte tous les changements qu'il y a. Donc en fait on met l'URL par exemple la politique de confidentialité de la plateforme, et ça va scraper le web avec cette URL deux à trois fois par jour. Et s'il y a eu un changement, en fait, ça va copier le changement.
Alors, des plateformes qui ne sont pas européennes aussi?
Non, alors les plateformes qui sont européennes, mais des plateformes qui ne sont pas européennes.
Plutôt européennes quand même?
En fait, ils ont travaillé avec UFC Que Choisir en France. Vous avez regardé quels étaient les services les plus utilisés en France par les personnes. Donc, par exemple, typiquement, il y avait la Redoute. C'est quelque chose qui est... Voilà, je sais plus, il y avait les différents services téléphoniques free, etc., SFR. Donc, il y a eu un moment donné, pendant un an, ça a été monitoré. Savoir est-ce que tout d'un coup, SFR change sa politique de confidentialité. Qu'est-ce qui est changé, quoi, voilà. Et en fait, comme c'est stocké, ça tout d'un coup, vous avez un litige, vous pouvez regarder en 2024, qu'est-ce qui a changé dans la politique de confidentialité de SFR. Ça va être sauvegardé, parce que sinon, vous allez regarder actuellement la politique de confidentialité de SFR en 2026, ce serait peut-être pas la même que celle qui était en 2024. Typiquement, ce qui est super intéressant, c'est que depuis octobre 2025, il y a LinkedIn qui interdit les publicités à but politique. Depuis octobre 2025. Et moi, je suis en Suisse. En Suisse, on a des votations 4 fois par an sur des sujets un peu quelquefois compliqués. Là, il y a eu c'était le 5 octobre. Donc, moi, j'utilise LinkedIn. Et tout d'un coup, on a des votations suisses en novembre 2025 sur des sujets un peu scrappy. C'était sur la taxation, plus de taxation pour les entreprises. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle les partis bourgeois, donc ce qui correspond aux partis de droite. Voilà. On fait beaucoup de publicité sur LinkedIn pour inciter la population à dire non. Et comme moi, j'ai vu qu'il y avait ce changement dans la politique, c'est les politiques de communauté de LinkedIn. Moi, j'ai demandé à LinkedIn, c'est pas conforme avec votre politique, supprimez-moi cette publicité. Donc, je suis arrivé à faire supprimer une quarantaine de publicités sur LinkedIn. Ça a fonctionné. Et là, on a de nouveau des votations au mois de mars 2026 en Suisse. Et c'est de nouveau, je retrouve des publicités sur LinkedIn. Donc, pour l'instant, j'en ai fait supprimer mes 3 en vue des votations de mars 2026. C'est moi qui dois faire la démarche. Ouais. Parce que, en fait, je pense que les partis politiques ou les syndicats, c'est des choses comme ça qui font des publicités politiques pour inciter à voter oui ou non. Ou ne savent pas forcément qu'il y a eu un changement. Et LinkedIn l'accepte sans.
Le changement est tout récent.
Voilà, puis je pense en France, vous avez les élections municipales, ça peut être intéressant aussi de regarder si tout d'un coup, il n'y a pas quelqu'un qui veut se présenter, qui dit qui fait de la publicité politique à ce niveau-là.
Alors, en quoi, Open Term Archive.
Archive, ouais, Open Term Archive, même si c'est un service à la base financé par l'État.
Aide.
En fait, si tu regardes le changement, c'est 2 lignes sur LinkedIn.
Du coup, ça t'aide à voir quel est le changement plutôt que de tout lire.
En fait, j'ai une page où j'ai avant, la version d'avant. En fait, mon écran peut être scindé en deux. J'ai la version à gauche, la version d'avant, et la version à droite, la version après. Et ça m'indique que les paragraphes qui ont été modifiés. Okay. Et en fait, je sais le nombre de caractères qui ont été modifiés aussi. J'ai moins 12 caractères en rouge et plus 4 en vert, quoi. Et là, sur TikTok, en janvier 2026, il y a TikTok aussi qui a changé, au fait, tous ces termes légaux. Parce que maintenant, TikTok, en fait, a une filiale aux États-Unis. Et donc, quand tu regardes les conditions d'usage, tu vois que c'est plus marqué TikTok, mais c'est marqué TikTok filiale, machin. Sur les termes d'usage de TikTok. Quoi. Et aussi en Suisse, souvent, on n'avait pas de représentantes légaux des grosses plateformes parce qu'on est un pays qui est petit. Et souvent, la Suisse était représentée, Union européenne, UK, il y a un représentant. Et maintenant, ils ont mis un représentant en Suisse, parce qu'en fait, il y a une nouvelle disposition qui correspond à la LPD, c'est la loi de protection des données, qui indique que s'il y a des traitements de masse, on doit avoir un représentant dans le pays. Et donc, en fait, il y a TikTok, Meta, Google, j'ai vu Tinder aussi. Sinon, j'aurais pas vu qu'il y avait des représentants en Suisse, et X aussi.
Et je comprends. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans alors, est-ce que c'est une association ?
Donc, c'est en fait, il y a des... Est-ce que c'est une association ? Je ne sais plus si c'est une association ou une fondation. En fait, moi, je suis bénévole, quoi. En fait, moi, je me suis intéressé aux applications de rencontres. Et je monitorais les applications de rencontres. Il n'y a pas forcément beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas des changements tous les jours. Comme d'autres personnes ont demandé à suivre d'autres services comme X, LinkedIn, etc. Mmh. En fait, ça nous permet de, comme tout est monitoré, si j'ai envie de regarder ce qu'il y a des changements récents sur LinkedIn, typiquement, c'est là de voir qu'en octobre 2025, il y a eu des changements sur LinkedIn, et où il y a une influence directe sur moi. J'ai fait supprimer des publicités politiques. Quoi. Et j'invite tout le monde à le faire.
Des questions ? Alors, je suis avec.
Justement, bon, ça ne représente pas forcément tout le travail de l'organisation, mais pour ton exemple de LinkedIn, tu as dit que ça permettrait aux partis politiques de voir qu'il y a eu ce changement, mais est-ce que finalement, vu qu'ils n'ont pas vraiment de sanctions, est-ce qu'ils ne profiteraient pas plutôt du fait que leur publicité soit disponible, même si c'est un court temps, et de feigner le fait de ne pas savoir du coup?
En fait, je trouve que LinkedIn est assez réactif. Alors le maximum que j'ai eu, c'était 3-4 jours pour que la publicité disparaisse. Mais sinon, là, j'ai vu des publicités en moins de 24 heures et étaient supprimées. Après, c'est supprimé depuis les États-Unis, donc voilà, il y a des heures aussi, si je fais à 9h ou 6h le matin, ça va mettre du temps. Mais ouais, LinkedIn, à ce niveau-là, est vraiment réactif, quoi. Et voilà, j'écris dans ma langue, j'écris en français. Sur LinkedIn, tu as vraiment un formulaire où tu remplis, tu dis que c'est telle publicité que tu as vue. Et puis, en fait, il y a même un moteur de recherche sur LinkedIn où tu peux voir, tu choisis le pays et puis tu regardes toutes les publicités qui sont dans ce pays. Tu peux chercher dans le pays aussi qui a mis la publicité et tu peux aussi chercher par mots-clés. Donc, comme il y a des votations en Suisse, bah, souvent, c'est oui, non, donc je cherche oui, non, il y a nein, enfin, dans les différentes langues, quoi. Et je pense que tu peux faire pareil en France et commencer à regarder municipal pour un change, j'ai rien vu, ou mairie, mais voilà, ça sera intéressant de checker ça aussi.
Eh bien, merci Marie-Pierre pour les explications, de comment tu appelles?
Open Terms Archive, voilà.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Alors, dans la page internet consacrée à l'émission Libre à vous, /270, vous retrouverez les liens vers les plateformes, les sites, des organisations et des projets dont vous entendez parler par les personnes interviewées. Je vous propose l'interview maintenant de SIC avec pour sujet musique libre et services décentralisés. Musicien amateur et DJ, SIC publie toute sa musique sous licence Creative Commons by SA via un net label. Il a proposé en rencontre hivernale du Libre une session DJ avec un set 100% musique libre. Il est également membre des Chatons et fournit aussi des services numériques libres, gratuits et sans pistage, contribuant à la décentralisation d'Internet. Nous écoutons SIC.
Et alors la musique que toi tu produis, tu la partages sur licence libre?
Oui, je la partage, je partage tout sous licence libre. En fait, les choses se sont faites de manière très naturelle, j'ai envie de dire. J'étais déjà quelqu'un qui était dans l'informatique et dans le libre. Quand j'ai commencé à m'intéresser du coup à la production de musique électronique, une fois qu'on a fait des morceaux, on a envie de les faire découvrir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais pas essayer de trouver un label, je vais pas essayer de trouver... Moi, j'ai envie que les gens ils aient facilement accès à ma musique. Donc, je vais parler d'une vieille époque, mais il y a une époque, on avait un MySpace en tant qu'artiste pour se mettre un petit peu en valeur et avoir un peu une vitrine sur le web. Donc, on avait son MySpace. Donc, j'ai commencé comme ça, à avoir mon MySpace, à mettre mes musiques dessus. Puis, il y a des gens qui sont venus me dire, ah, moi, j'aimerais bien avoir ta piste, pouvoir la mixer dans une soirée. C'est là où je me suis dit, bah, en fait, je vais faire mes propres MP3, je vais les diffuser moi-même sur un site. Et je vais m'autoproduire, en fait. Et vu que c'était pour le partage, bah, ça tombait sous le sens, hein, licence libre. Et puis c'est parti, allez-y, amusez-vous, profitez-en. Pour moi, c'est un bien culturel et c'est fait pour être partagé. Ça a toujours été le but. Voilà, j'ai construit mon site, j'ai commencé à mettre mes pistes dessus et puis à tout distribuer. Ça en est devenu après ce qu'on appelle un petit net label, en fait, que j'ai fondé avec un ami à l'époque, donc, qui s'appelait Clickty. Et ce but-là, bah, c'était de pouvoir mettre mes pistes déjà moi et les diffuser, et d'autres artistes peut-être qui cherchaient des fois à se faire diffuser. Donc on a commencé aussi à produire entre guillemets, c'est-à-dire on leur donnait juste la visibilité sur le site et le fait de pouvoir faire télécharger leurs pistes à tous les gens qui visitaient le site.
Et c'est quelle licence?
Alors c'est licence Creative Commons, donc BYSA, donc ça permet voilà.
Et c'est BYSA.
Exactement, okay. On voit la connaisseuse.
Et alors, il y a une question qui m'est venue aussi en termes de licence. Quand tu fais le mix, du coup, est-ce que tu mixes des musiques qui ont une licence libre ou pas?
Alors, généralement, dans ma vie de tous les jours, quand je vais faire une prestation ailleurs, dans un club ou pour un festival, je vais mixer de la musique, pas forcément libre. Je peux mettre Alors ça, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est quand je suis invité à un événement, c'est l'événement qui doit gérer en lui-même, c'est lui qui va proposer de la musique, donc c'est lui qui est obligé d'aller voir des histoires de droits SACEM ou de musique. Voilà, je...
Mais toi, tu connais pas les droits?
Moi, c'est pas...
Tu sais déjà, mais bon, c'est pas toi qui t'en occupe.
C'est pas à moi de m'en occuper, donc moi, je fais juste ma sélection. Et donc, effectivement, je mets pas forcément beaucoup de libres à l'intérieur, parce que de base, avec mon collectif, c'est pas ce qu'on met en avant. C'est un peu moi le libriste du collectif, en fait, qui pousse toujours dans ce sens-là. Et c'est vrai que là, c'était parfait aujourd'hui. C'est que c'était l'occasion, justement, de pouvoir faire un mix, mais uniquement de musique libre. Pour aujourd'hui, effectivement, vu qu'on est aux rencontres hivernales du libre, ça me paraissait complètement déplacé d'arriver et de jouer les musiques du top 50, par exemple. Donc, je suis vraiment resté dans le thème. Donc, je n'ai mis que des musiques, quoi que je crois, qui sont donc sens libre, ou d'autres labels qui proposent aussi exactement sous la même licence. Donc, ce soir, ce sera un mix que de musique libre.
Ok. Et donc, ça nous intéresse beaucoup à Libre à vous, puisque nous diffusons à chaque émission des musiques libres. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Vincent Calame demain qui va faire une conférence sur les musiques libres. Et donc, nous, on est toujours à la recherche de musiques libres. Hein. Et on a d'ailleurs, on commence à faire un catalogue, une page internet où on a catalogué très finement, avec beaucoup de détails, les musiques libres qu'on a pu rencontrer. Et alors, à part la musique, tu utilises aussi des logiciels libres, donc tu as la fibre du libre.
J'ai la fibre du libre. Quotidiennement, j'en utilise tout le temps.
Tu m'as parlé de chatons.
Oui, alors je fais aussi effectivement partie des chatons. Donc
ça veut dire quoi faire partie des chatons?
Alors les chatons, donc c'est un collectif qu'on a en France qui regroupe bien des associations, des particuliers comme moi ou des entreprises. Et qui mettent à disposition des services sur Internet, donc des boîtes mail, des espaces de discussion, des services de visioconférence.
Des petits utilitaires, des petits outils qui nous...
Toutes ces solutions sont basées sur des logiciels libres.
Et toi, le fait d'en faire partie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu participes?
C'est-à-dire que donc c'est un collectif sur lequel en fait on présente ce qu'on fait, on présente les services qu'on a mis en place.
Et toi, tu en as mis en place?
Donc oui, moi j'en ai en place. Donc j'ai SIC.fr, donc mon site.
Comment tu dis?
SIC, mon nom d'artiste, du coup, .fr. Donc j'ai mon serveur. Et du coup, si vous allez sur service au pluriel .sic.fr, vous allez voir tous les services que je propose aux utilisateurs d'Internet. C'est la plupart de mes services donc sont tous gratuits à utiliser. Ça permet, moi ce qui me tient à cœur, c'est ce côté un peu de décentralisation. C'est tout le monde est chez les Google, chez les Amazon. Et moi j'aime bien le fait qu'il y ait un petit peu de partout des services que les gens peuvent utiliser. Et nous en plus derrière chez Le Chaton, on voit le fait qu'il n'y a pas de pistage, il n'y a pas d'utilisation des données. Bon, tout ce qui va bien entre guillemets avec le logiciel libre. Et donc après, ce collectif-là, on se retrouve à la fois sur le forum. Il y a tous les ans un camp d'été qui est fait aussi pour se retrouver. Et ça permet de mettre en commun un petit peu nos connaissances. On s'entraide. Alors, je suis pas forcément le plus actif dessus, mais on commence à être pas mal de structures. Hein. Je pense qu'on arrive à une centaine de structures maintenant. Et donc voilà, ça permet d'avoir un essaim de services décimé un petit peu dans toute la France et ailleurs. Hein, France. Et permet ainsi aux utilisateurs de s'émanciper.
Bon, merci beaucoup, SIC. Oui, une dernière petite question. On aimerait bien, justement, à l'occasion de l'émission sur les rencontres hivernales du Libre, diffuser. Une ou deux musiques que tu as fait toi, donc tu as une petite idée de ce qu'on pourrait diffuser, des pièces que tu as fait?
J'ai effectivement une petite idée, donc je serais très content déjà de vous partager tout ce que j'ai fait et que vous puissiez l'intégrer à votre catalogue. C'est fait pour ça, comme je disais, le but c'est le partage. Et j'ai une piste sûre qui me vient en tête qui s'appelle Girlfriend, que j'ai fait donc avec un ami qui s'appelle Small, un ami lyonnais. Celle-ci me tient à cœur parce que, comme très souvent, comme beaucoup d'artistes, on a du mal à aimer ce qu'on fait sur la longueur. C'est-à-dire, on produit, on est content, puis on passe à autre chose, puis quand on regarde en retrait, on n'est pas très satisfait. Sur cette piste-là, justement, ça me fait un peu moins cet effet-là, et ça fait partie un petit peu d'une piste qui je suis encore, entre guillemets, fier. Donc, je pense qu'elle fera partie du lot.
Ben, merci beaucoup, Sik.
Ben,
et
merci
donc,
à vous.
Contente de te pouvoir t'écouter ce soir. En direct.
Merci beaucoup.
Nous profitons de cette émission pour écouter les musiques créées par Sik. Nous avons écouté donc en première partie la musique dont il vient de nous parler qui s'appelle Girlfriend. Et maintenant, c'est l'occasion de vous offrir une deuxième pause musicale. Et nous allons écouter une autre musique de Sik qui s'appelle Lunar Blast 213. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. D'écouter Lunar Blast 213 par Sik, disponible sous licence libre CC BY-SA 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Et bien sûr, vous pouvez retrouver les musiques de Sik, les liens vers les musiques de Sik sur la page internet consacrée à l'émission sur le site libreavoue.org/270. Nous allons poursuivre notre sujet sur les rencontres hivernales du Libre avec l'interview de Céline Espugna sur le sujet de accès internet associatif et neutralité du net. Céline représente FDN aux rencontres, le plus ancien fournisseur d'accès Internet associatif français. Elle explique le fonctionnement d'un accès Internet éthique, les box ou routeurs libres, l'accompagnement bénévole, la neutralité du net. Arrivée chez FDN par conviction en zone blanche, elle témoigne d'un modèle sans salariés ni locaux, mais capable de fournir un service fiable à près de 1000 adhérents. Nous écoutons Céline.
Tu m'as parlé donc de FDN. C'est ça, c'est l'association que je représente. Et en fait, c'est une association qui vend des abonnements FAI, c'est-à-dire qu'on est un fournisseur d'accès Internet, le plus vieux
fournisseur d'accès Internet.
Le plus vieux, t'as dit ?
Mmh. Ouais. Associatif. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans les années 90.
Ah ouais ?
Okay. Ouais. Avant les BOFs, donc, c'est-à-dire Bouygues, Orange, Free, SFR. Donc, voilà. Donc, je représente l'équipe trésorerie de FDN.
Donc, tu es membre
Ah, membre actif trésorière au bureau préfectoral.
Vous fournissez de l'accès Internet, c'est ça ?
Oui, comme Free, comme Orange, comme Bouygues.
Ouais. Donc, y a des, comment ça se passe ? Il y a des box ? Enfin, moi, je sais pas, Internet, pour moi, c'est une box ou chez moi ?
Alors, ouais, nous, on va fournir l'abonnement. On va conseiller sur la box ou le routeur que l'adhérent va devoir acheter.
D'accord.
Il va devoir adhérer à l'association.
Oui.
Et une fois qu'il a adhéré, qu'il a acheté la box, il pourra avoir accès moyennant... l'abonnement, il aura accès à Internet.
Donc, je pourrais avoir Internet dans ma maison, comme si...
Si vous êtes éligible, il y a l'ARCEP, oui, bien sûr.
Okay.
Que ce soit en ADSL, mais on en fait de moins en moins, puisqu'ils vont arrêter le cuivre. Donc, on fait de plus en plus de fibres, mais oui.
Ok, d'accord. Donc, c'est un fournisseur d'accès Internet. C'est quelle valeur qui t'a dit, ah ben, coup de foudre ?
La neutralité du net.
Okay.
Ça, pour moi, ça a été une des premières choses. C'est chacun a le droit de dire ce qu'il veut, sur bien entendu, dans la limite du raisonnable. Je dis pas qu'on tolère la pédophilie, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est chacun a le droit de s'exprimer.
J'habite à Paris. En ce moment, ben, je suis chez Free, voilà. Et ben, j'ai envie d'aller chez FDN, donc je peux.
Absolument.
Et vous allez me conseiller un matériel à acheter.
Oui.
Et j'achète le matériel.
Oui.
Et après, je deviens...
Alors, pourquoi acheter le matériel ? Parce que vous êtes propriétaire du routeur.
OK.
Et donc, vous pouvez mettre ce que j'appelle les mains dans le cambouis.
D'accord.
C'est-à-dire que vous pouvez paramétrer comme vous le voulez et comme vous le souhaitez le routeur.
Et dans ces paramétrages de box, alors bon, on va pas rentrer dans la technique hein, parce qu'on n'est pas là non, pour non. Ça, mais est-ce qu'il y a de la notion de logiciel libre hein?
Absolument, il y en a, oui, il y a des box qui... Alors, pour ceux qui connaissent la technique, on leur enseigne, on leur conseille certains logiciels qui leur permettraient de remplacer le logiciel d'origine hein, de la box pour être dans le complètement libre. Après, toutes les box ont été essayées par les adhérents et validées, conseillées par les adhérents.
Okay.
Et après, derrière, il y a l'équipe technique, donc le support, qui va vous expliquer si vous n'arrivez pas à la paramétrer, à vous dire comment il faut faire et prendre le temps de vous expliquer.
FDN a souhaité tenir un stand et toi, tu as souhaité donc venir parce que bon, bah, j'ai bien compris que l'aventure de venir ici était bien sympathique. Et tu voilà le monde libre, le libriste.
Je me sens honorée d'être ici, en fait. Ça me paraissait un milieu tellement fermé quand j'ai commencé à m'intéresser au libre. Parce que moi, j'ai commencé doucement hein, par LibreOffice, par Mozilla, par Thunderbird. Après, je suis passée à Linux. Maintenant, je prends le libre partout. Donc j'ai commencé doucement, mais en fait je m'aperçois que c'est pas du tout un milieu fermé comme dans lequel on pense au départ quand on voit et qu'on commence à s'intéresser en disant mais les gens ils sont pas accessibles, c'est pareil du tout. En fait dès qu'il y a un problème, là moi j'ai la chance de avec mon entreprise de m'être fait subventionner un Fairphone avec Murena dessus qui est un autre système qu'Android, c'est la même chose qu'Android mais c'est différent. Et j'ai eu un bug avec, j'ai pu leur signaler le bug, et j'ai tout de suite, ils m'ont répondu, j'ai trouvé ça fabuleux, tandis que c'est pas forcément la même chose avec Android.
Je vous propose d'écouter un nouveau sujet qui est mémoire et transmission du libre avec Walid Nou. Walid présente le podcast Projet Libre consacré à l'histoire, l'économie et les communautés du libre. On écoute Walid.
Alors Walid, donc pourquoi as-tu souhaité venir aux rencontres hivernales du Libre ?
Tout d'abord, bonjour. Ravi d'être au micro de Libre à vous. En fait, je suis venu ici, je ne connaissais pas cet événement. J'ai été, comme vous, en fait, j'ai été contacté par l'organisation. qui m'a proposé est-ce que j'étais intéressé par venir. J'étais assez intéressé du contexte de faire une conférence pour les gens qui font du logiciel libre, qui nous permet de nous rencontrer et de discuter de nos problématiques. C'est-à-dire pas faire de la sensibilisation, mais plutôt prendre des gens pour échanger avec des pairs sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis l'autre chose que je trouvais intéressante, c'est que en tant que Français, j'étais super intéressé de discuter avec des Suisses de leurs propres problématiques qu'on connaît pas forcément, que moi je connaissais pas forcément beaucoup. Et de discuter avec eux de ce qui leur tienne à cœur, ce qui est important pour eux.
Globalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence avec la France. Je sais pas si tu as trouvé.
Il y a pas de. J'ai l'impression qu'on a des problématiques assez communes. J'ai l'impression que peut-être on est un peu plus avancé en termes de sensibilisation de ce que je comprends au niveau des autorités, etc. Que peut-être l'utilisation du logiciel libre est un petit peu plus répandue. Mais globalement, on voit qu'on a, comme d'ailleurs avec d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays francophones, on a des problématiques assez communes à l'heure actuelle autour de l'émancipation, autour de la résilience, etc. Enfin, toute la géopolitique nous impacte tous très fortement, quoi. Donc c'est assez sympa justement de pouvoir discuter dans un environnement assez tranquille et calme, quoi. De ces sujets-là avec des gens, quoi. Et puis découvrir des nouvelles personnes qu'on connaît pas.
Et donc tu as donné une conférence, c'était ce matin?
Ouais.
Pendant une heure?
Non, c'était 20 minutes.
20 minutes, d'accord.
J'ai eu l'occasion d'expliquer le travail que j'ai initié sur le podcast Projet Libre.
Donc tu fais un podcast qui s'appelle Projet Libre.
Ouais, je fais un podcast qui s'appelle Projet Libre, c'est un podcast francophone. Je suis pas tout seul, on est plusieurs à travailler sur le sujet. Et donc c'est un podcast qui a été indépendant jusqu'à la fin de l'année dernière, et maintenant on a rejoint l'équipe de linuxfr.org. Voilà, donc on est la partie audio de linuxfr. Et donc c'est un podcast sur lequel on traite environ 2 épisodes par mois. On traite toutes les problématiques associées au logiciel libre, aussi bien autour du financement, des modèles économiques. On fait beaucoup d'histoires, on raconte beaucoup l'histoire des projets, l'histoire des associations, etc. Ouais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Et donc là, pendant la conférence ce matin, tu as expliqué un peu qu'est-ce que c'est Projet Libre, qu'est-ce que c'est ces podcasts.
Voilà, j'ai expliqué ce que c'était, j'ai expliqué aussi pourquoi je le fais, comment j'imagine, qu'est-ce que j'imagine moi du podcast, pour quelles raisons je le fais, et aussi qu'est-ce qu'on veut faire en 2026, quels sont un peu nos plans pour l'année qui vient, quoi.
On peut écouter ton podcast, donc comment on fait pour le trouver?
Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que vous pouvez aller sur le site internet, c'est projet-libre.org. Là, vous avez tous les épisodes avec toutes les transcriptions.
Et depuis combien de temps?
Le podcast existe depuis avril 2023.
Ok.
Donc c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'aller dans votre application de podcast, par exemple AntennaPod ou d'autres, et de taper projet libre au pluriel, et vous allez tomber dessus. Vous ne pouvez pas le louper. Il y a un petit logo avec un pingouin, il y a écrit linuxfr.org. Voilà, vous n'allez pas le louper, quoi.
Alors d'ailleurs, cette occasion, puisque tu en parles, tu as fait un podcast sur les rencontres hivernales du libre.
Tout à fait. En fait, quand j'ai été contacté par Oinska, qui est donc un des organisateurs de l'événement, donc on a commencé à discuter de ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de l'événement. Et moi, en fait, je leur ai proposé de venir parler des rencontres hivernales, puisque c'est la 10e édition des rencontres hivernales. Et en même temps, c'est la 20e année d'existence de Swiss Linux, qui est l'association qui organise ça. Donc en fait, on a fait un épisode de présentation, puisque à l'intérieur du podcast, une des thématiques aussi, c'est de présenter l'écosystème et donc les conférences. Je l'avais fait par exemple avec Mixit, où j'avais interviewé des gens de l'organisation, on avait parlé d'où ça venait, de l'organisation, comment c'était fait. Donc là, c'était très sympa de pouvoir le faire aussi avec les RHL un petit peu avant pour donner envie aux gens de venir à l'événement, quoi.
Alors justement, je pense que ça va te faire très plaisir. À midi, donc on a tous déjeuné ensemble, et à côté de moi, il y avait une dame, on a commencé à discuter. C'est une dame qui ne fait pas partie de la communauté libriste spécialement, mais qui commence à interpeller par le sujet, qui commence à rentrer dans le sujet.
Et comment elle a connu ces rencontres? C'est en écoutant ton podcast. C'est grâce à toi qu'elle est là aujourd'hui. Elle m'a dit.
C'est super.
Ouais.
Voilà, l'intérêt du podcast, c'est aussi de promouvoir les événements qui se passent à l'heure actuelle et aussi d'inscrire tout ça dans l'écosystème. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire sur le podcast, c'est à terme, dans quelques années, d'avoir décrit globalement l'écosystème, d'avoir présenté toutes les grandes conférences, les associations, etc. Et moi, ça me fait super plaisir quand des gens ont découvert à travers le podcast, sont allés... J'avais eu des retours un peu similaires de gens, par exemple, qui m'avaient dit « Je me suis intéressé à la communauté Odoo parce que je suis tombé sur ton podcast et je ne savais pas que ça existait et j'ai été voir des événements. » Ça, c'est pour moi, c'est un peu la récompense, quoi. Ça veut dire qu'on a fait un travail qui a touché dans le sens que les gens ont eu l'occasion de l'écouter, quoi.
Ça fait.
C'est super. Hein.
Merci pour ton podcast.
Merci.
Et donc, bonne continuation pour aujourd'hui à ces rencontres. Et merci, Walid, d'être intervenu pour ces petites interviews.
Merci. Et puis, à bientôt sur le podcast Projet Libre pour le troisième et dernier épisode sur l'April. On va parler de Libre à vous et Libre à lire. Libre à vous et Libre à lire, voilà, où on aura ça. Le podcast devrait sortir en février.
Effectivement, le podcast va sortir ce soir ou demain matin. Parlons maintenant XMPP, pédagogie et émancipation avec Codimp. Codimp présente XMPP comme protocole libre, fédéré et sécurisé. Cofondatrice de projets comme Exodus Privacy, une plateforme d'audit de la vie privée des applications Android. Codimp défend l'autonomie numérique et partage ses connaissances via litio.fr, L-I-T-H-I-O.fr, mêlant technique, pédagogie et politique. On écoute Codimp. Je suis avec Codimp, qui est donc ici avec nous depuis hier. Donc nous avons passé déjà, c'est notre deuxième journée ensemble. Codimp donc va se présenter. Tu as fait une conférence, il me semble.
Fait.
Donc tu nous diras un peu ce que tu as fait. Et avant ça, j'aimerais bien que tu nous dises d'où tu viens.
Alors moi du coup, je viens de Rennes, en France. Où, voilà, la capitale de la Bretagne. C'est ça, exactement. J'y suis depuis pas longtemps et je suis venu voilà tout le week-end parce que j'ai été invité par Oinska, un des orgas des RHL, et m'avait dit tiens, si tu veux, est-ce que t'as un truc à proposer? Je me suis dit oui, c'est l'occasion, je vais proposer une conférence sur XMPP.
Ok, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est peut-être rapidement XMPP.
XMPP du coup c'est un protocole de messagerie qui permet donc de faire de la messagerie instantanée, donc de discuter avec ses proches, de discuter avec ses amis, tout le monde, tous ses collectifs, etc. Et qui est un ancien protocole, entre guillemets, un petit peu vieux, il a été créé dans les années, fin des années 90, mais qui est toujours très maintenu, très à jour, et qui notamment a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années, particulièrement ces 5 dernières années. Donc ma conférence portait surtout sur ça, montrer les améliorations qu'il y a eu, et surtout montrer les communautés qui font vivre XMPP. Et notamment, j'ai parlé de Joinjabber, de QueerSpark, de communautés qui essaient de faire de l'inclusivité et de l'accessibilité au sein de XMPP.
Voilà. Donc ça veut dire que si j'installe une application qui peut dialoguer en XMPP, après je tape le pseudo de quelqu'un et je peux commencer à dialoguer avec lui.
C'est exactement ça. C'est très proche de ce qu'on fait avec le fait divers ou avec le mail, typiquement. Donc notre identifiant, c'est ce qu'on veut, @ le nom de notre instance, le nom de notre serveur en gros. Et typiquement, voilà, on installe une application comme Conversation sur son téléphone, comme Gajim sur son ordinateur. On se connecte à son compte. Et une fois qu'on est connecté, on peut ajouter ses contacts normalement. On peut discuter avec eux, on peut envoyer des fichiers, on peut faire des appels audio-vidéo aussi qui existent. Et avec du chiffrement de bout en bout en plus. Donc du chiffrement très sécurisé qui chiffre le message dès qu'il sort du téléphone. Voilà. Donc même les personnes qui gèrent les serveurs peuvent pas lire les messages, par exemple.
Et donc toi tu es on va dire engagé dans la communauté libre depuis longtemps?
Ah oui, alors moi et comme je disais, une table ronde hier aussi, je sais pas si je suis tombé dans le libre ou si c'est le libre qui est tombé en moi, Depuis des années, en fait, je pense que ça a commencé à m'intéresser au collège. En fait, c'est l'arrivée d'Internet dans ma vie qui a changé tout. Parce que ça a été immédiat. Moi, j'ai, par rapport à d'autres camarades en France, j'ai eu Internet tard chez moi. J'étais déjà au collège quand j'ai eu Internet. Et ça m'a rendu dingue. J'ai trouvé ça hallucinant et incroyable. Et non seulement le fait de pouvoir communiquer avec des gens, mais surtout le fait de pouvoir moi-même créer un site web. J'ai créé mon premier site web, je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça fabuleux.
En fait, tu voyais les informations magique que tu pouvais lire des autres,
oui,
et tu te dis, moi aussi, je veux participer à ça.
Oui, je veux participer, je veux échanger. Et ça avait quelque chose de magique. Et de, ouais. Et quelque chose aussi, ça avait un aspect, j'en parle un tout petit peu dans un article que j'ai écrit une fois, mais c'est un côté très spirituel dont les gens ne parlent pas d'Internet. C'est un côté très très organique, très magique à cette époque. Je retrouve encore un peu aujourd'hui, même si moins, mais à cette époque, de se connecter sur des sites qui sont à des kilomètres et des kilomètres dans d'autres pays, sur d'autres continents, de fouiller des fichiers, de discuter avec des gens et de se dire, j'arrive à parler avec eux. On a oublié la magie qu'il y avait dans Internet, je trouve. En quelques millisecondes, on peut faire le tour du monde et discuter avec des gens. Je trouve ça merveilleux.
C'est vrai que toi, tu l'as pas eu, donc peut-être tu lisais des livres, des ceci, cela. Et puis là, tout d'un coup, voilà, tu as découvert l'avant et l'après. Alors que maintenant, si on est maintenant, ben ça, on n'a pas.
C'est ça. Il y avait des jeunes qui avaient connu les modems 56K, etc. Moi, j'avais pas eu tout ça à la maison. On avait directement la DSL. Voilà. C'était incroyable. Et le libre, ça a été une évidence, du coup, ensuite. Je veux dire, je pouvais accéder à tout, mais il y avait certains logiciels qui me disaient, ou certaines personnes qui se disaient, bah non, nous, on fait du capitalisme, on a envie de plutôt faire des logiciels qui se payent, et puis on va pas te montrer comment ça marche, etc. Hein, oui, mais comment je l'adapte à mes besoins, comment je l'adapte à mes handicaps, comment je l'adapte à ma vie, à celle de mes amis aussi. Enfin, c'est devenu une évidence, le libre. C'est même plus un choix, c'est un besoin.
Ok. Et donc, est-ce que toi, tu es engagé dans des communautés libristes ou...
Oui, un petit peu. Ça dépend. Alors, j'ai cofondé pas mal de collectifs, peut-être un peu trop pour ma propre santé.
Ok.
J'en ai fait plusieurs. J'ai fait beaucoup qui tournent autour, par exemple, du DNS. Le DNS, c'est le système qui permet de faire fonctionner les noms de domaine, les noms qu'on utilise sur Internet. Donc, fait DNS, j'ai créé ça et ça marche plutôt bien. Tubercule, en ce moment, que j'essaie de lancer à Rennes pour faire en sorte que les personnes puissent maîtriser leurs outils informatiques, leurs outils numériques, notamment dans les milieux de gauche, en fait, qui reprennent pas assez en main, je trouve, leurs outils de production numérique. Pareil, j'ai créé il y a quelques années avec des amis, on a cofondé une asso qui s'appelle Exodus Privacy, qui cherchait les pisteurs dans les applications Android sur mobile. Voilà.
J'ai pas tout compris, c'est quoi, mais...
Ah, c'est des petits bouts de logiciels qui se retrouvent dans les applications et qui exfiltrent en fait les données.
Ok.
Qui font que ça se retrouve
donc
ailleurs.
C'est pas bien.
Alors, nous, on n'est pas juge de ça.
D'accord.
Parce qu'il y a des gens qui considèrent que certains pisteurs sont positifs, d'autres négatifs. Nous, on dit juste, voilà, nous, on vous montre les ingrédients qu'il y a dans le gâteau. Pour reprendre une métaphore qui était faite par notre ancienne présidente, c'est comme nous, on a accès en sommaire d'un livre et on vous dit, voilà, quels sont les chapitres du livre. On vous dit ce qu'il y a dedans. C'est à vous de juger si c'est bien ou pas. Voilà. Et du coup, oui, j'ai fait plein de logiciels libres à force. Tout ce que je fais maintenant est publié sous licence libre et j'aide pas mal sur XMPP, forcément, ces derniers temps.
Et donc, j'imagine que tu as un site internet, un blog,
oui,
quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire qu'on peut
bien sûr, litio.fr,
L-I-T-H-I-O.fr. L-I-T-H-I-O. Alors,
c'est ça.
Je mettrai ça hein, sur les fiches du podcast ou la page
okay
du site internet, comme ça les personnes pourront.
Ouais, bah dessus il voilà y a tout, voilà, je fais plein de choses. J'ai un blog où j'écris des articles régulièrement, que ce soit numérique, technique ou politique.
Super, ouais.
J'ai un wiki aussi pour renseigner les pages. Parce que souvent plein de gens me demandent mon avis sur certaines choses où j'ai de l'expertise, typiquement les messageries instantanées ou de la cryptographie. Et donc j'essaie de vulgariser ça avec des pages de wiki, avec des exemples concrets qui parlent aux gens. Le but, c'est aussi surtout que les personnes non techniques puissent le comprendre.
Ben moi, tu vois, par exemple, j'aimerais bien faire un wiki, moi aussi, de tout ce que j'ai engrangé comme connaissance. Et comme ça, je peux voir comment toi, t'as fait, m'inspirer. Parce que des fois, je sais pas trop comment je vais le présenter, comment je vais le faire. Et du coup, ben je peux m'inspirer aussi, en plus, en lire ton wiki. Mais c'est intéressant. Mais aussi, on peut aller voir pour s'inspirer.
Ben, totalement. Moi, le logiciel que j'utilise, c'est DocuWiki, voilà, qui est installé. C'est un petit wiki qui est tout simple. Qu'on peut installer facilement sur un serveur ou qu'on peut mutualiser avec des amis sur un serveur et on peut faire plein de pages de wiki, ça s'édite facilement, on écrit en markdown dedans, c'est très simple à utiliser.
Nous continuons avec l'interview de Adrien Bourmeau, dont le pseudo est Neox, qui a pour sujet hébergement éthique commun et bas niveau. Alors, Neox est membre de Swiss Linux. Il présente Libre et Commun, une association qui gère des serveurs auto-hébergés comme des communs, une gouvernance collective, une fibre via FDN, des projets respectant les libertés informatiques. Il est aussi mainteneur de GNU Boot, un BIOS libre remplaçant les firmwares propriétaires. Alors, on va découvrir tout ça et essayer de comprendre en écoutant Adrien.
J'ai avec moi Adrien Bourmeau, ou autrement connu sous Neox. Donc Adrien, tu es venu au RHL et merci de nous accorder une petite interview.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais ?
Eh bien, déjà, je suis là parce que je suis membre de Swiss Linux depuis déjà un certain temps. Et donc, les RHL, eh bien, j'y vais tous les ans, et je participe à l'orga, surtout sur place. Cette année, j'ai pas eu trop le temps de faire les préparatifs, mais en tout cas, j'ai pu permettre d'aider un peu à la mise en place. Puis je suis surtout aussi aujourd'hui là pour faire une conférence que j'ai faite juste tout à l'heure, parce que je suis responsable de l'infrastructure de Libre en Commun, une association qui sévit en France, qui fait de l'hébergement éthique. Et donc je faisais une conférence sur le sujet de l'hébergement comme commun. Nous avons une ressource partagée, un ensemble de serveurs que nous hébergeons directement dans les caves de nos adhérentes et adhérents, et on a tiré nos propres lignes fibres via FDN qui s'occupe de ça avec nous, on participe. Un des sites de serveurs est à Fontainebleau, un autre à Saint-Maur-des-Fossés, on a aussi un site à Gisors, en Normandie, et donc sur ces serveurs, on les gère comme une ressource partagée, on héberge des projets internes comme externes, et l'objectif, c'est qu'on la gère de façon communautaire, démocratiquement, avec toutes les caractéristiques qui en font un commun, au sens de la philosophie d'Elinor Ostrom, en fait. C'est-à-dire une ressource partagée, gouvernée avec un système de règles, des règles pour changer les règles, ça peut être rival, non-rival, global, etc. Nous, dans notre cas, du coup, c'est une ressource rivale, puisque c'est du temps processeur. Quand on prend du temps processeur, ça veut dire qu'elle est plus là pour les autres.
Alors là, ça devient un peu compliqué.
Ah oui, ouais, je sais. Et voilà, c'est la philosophie des communs.
Ok. Et alors, ça s'adresse à qui ? Je comprends pas tout.
En fait, le fait de considérer l'hébergement comme un commun, ça veut dire qu'on gouverne ça tout et tout ensemble. N'importe qui peut venir être hébergé chez Libre en Commun, à condition que ça corresponde avec nos idéaux. C'est-à-dire qu'on veut héberger que du libre, ou en tout cas quelque chose qui ne promeuve pas la privatisation de la liberté numérique, de manière générale, premier critère. Voilà. Par contre, par exemple, imaginons nous, on a un projet qui voudrait héberger, je sais pas moi, un dictionnaire des jeux vidéo, c'est pas très grave si ça parle de non libre, tant que c'est très clair. Et que par contre, ce qui est hébergé sur le site, lui, est entièrement libre. Ça s'adresse à tout le monde. Mais ce qui compte pour nous, c'est que les personnes qui sont hébergées chez nous, elles ont un contrôle collectif sur l'hébergement lui-même. C'est-à-dire que comme c'est un commun, toutes les personnes hébergées font partie des décisions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si un jour
hébergées font partie des décisions. Ouais, d'accord.
Il faut qu'elles puissent participer à l'hébergement, donc mettre la main à la pâte dans le cambouis ou je sais pas. Elles veulent juste faire de la communication pour aider à ce que le financement soit pérenne. Et c'est bien aussi. Si elles veulent aider financièrement, c'est bienvenu aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'un contrôle collectif. C'est-à-dire que les personnes qui sont hébergées participent. Il faut qu'elles puissent vérifier tout ce qui se passe et qu'elles puissent participer à la mise en place. C'est ça qui, pour nous, importe. D'où l'idée de commun.
Et comment on peut vous trouver ? Donc, vous avez un site internet ?
Alors, on a un site internet, bien sûr, sur www.a-lec.org, donc qui est le site de Libre en Commun. Puisque je suis dans plein d'autres projets, je suis aussi dans le projet GNU, puisque je suis mainteneur de GNU Boot, qui est un BIOS libre.
GNU Boot,
ouais.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une distribution, en fait, de logiciels de démarrage. C'est-à-dire que qu'on appelle communément le BIOS, mais qu'on devrait appeler le logiciel de démarrage, c'est ça, c'est le programme qui permet à l'ordinateur d'arriver à un état où le système d'exploitation peut démarrer. C'est-à-dire que l'OS, au final, fait beaucoup de choses, hein, je ne vais pas dire qu'il fait rien, mais sans BIOS, il n'y a pas d'OS. C'est-à-dire que c'est le BIOS qui va mettre entraîner la mémoire de façon à ce qu'elle fonctionne, détecter les disques durs, détecter tous les bus, mettre le matériel à un état fonctionnel. Chaque carte mère a son BIOS, qui est très précisé. On peut faire des choses en commun, mais souvent, il y a beaucoup de choses précises.
Et donc, GNU Boot, c'est un BIOS.
C'est une
démarrage, comment tu l'appelles.
C'est ça.
Et toi, tu fais quoi là-dedans?
Je suis maintenant du
maintenant.
Je suis maintenant du projet.
Donc, t'as accès au code?
Bien, évidemment, je le maintiens, je reçois les contributions, je développe aussi moi-même. Voilà, je suis un des mainteneurs, parce qu'il y a un autre mainteneur avec moi, qui s'appelle Gnutu, qui est mainteneuse du...
Et donc toi, tu as un compte Mastodon, où on peut te suivre?
Tout à fait, on peut me trouver sur Neox, chez social.chalec.org. On me trouvera là.
Alors, Léon a une question.
J'ai deux questions, déjà. Tu as parlé du truc du projet de serveur décentralisé, mais je suis curieux justement comment ça se passe. Genre moi maintenant j'ai un programme que j'aimerais faire hoster, mais comment c'est arbitré, comment c'est décidé, chez quel membre de l'association ça va tourner?
C'est une très bonne question. Alors chez nous c'est assez transparent, hein. En gros tu vas faire ta demande et c'est le comité ou on appelle ça le conseil d'administration plutôt en France, qui va s'en occuper, c'est-à-dire qu'il va instruire la demande, vérifier que ça correspond aux critères qui sont indiqués dans notre règlement intérieur et dans nos statuts, et la réponse sera écrite au collectif. Si le collectif ou personne, hein, d'ailleurs des fois c'est des personnes physiques qui font des demandes, généralement ça va être oui, c'est-à-dire en fonction de la place disponible. Souvent les personnes nous contactent pour héberger un site web, ça demande pas énormément de ressources et on a de la place. Techniquement en fait sur les serveurs que nous avons, aujourd'hui on a à peu près 256 cœurs disponibles. Il y a de la place quoi, il y a de quoi faire. Et beaucoup de stockage aussi, donc ça va quoi. Et les gens ont de quoi faire.
Et donc si Léon, lui, il avait envie d'héberger son site, parce qu'il est, par exemple, il adore les systèmes embarqués, il voudrait en parler sur un blog ou quelque chose, il peut venir vous voir.
Voilà, tant que c'est du logiciel libre, que c'est un lien avec nos idéaux, pas de problème.
Ouais, et la deuxième question, bon, un peu plus techniquement, c'est tu as parlé du développement du BIOS, mais au niveau justement des hardware différents, au niveau des pilotes, ça joue comment? C'est intégré par rapport à ce qui est fourni par le fabricant, ou bien faut reprogrammer comme composant du BIOS pour chaque composant possible?
Ouais, c'est-à-dire que si j'avais une nouvelle carte mère sur laquelle je devais porter GNU Boot, je serais obligé... Bon, là, en fait, généralement, on a quand même des méthodes. Disons que beaucoup de PC ont des composants communs. Donc là-dessus, on peut réutiliser ce qui existe déjà. Mais sur chaque nouveau composant qui n'est pas encore supporté par les BIOS actuels libres, on va être obligé de faire de la rétro-ingénierie, vérifier comment ça fonctionne et réécrire entièrement une implémentation.
Ok, ouais, du coup, dans le projet, vous avez des gens qui font un peu plus du système embarqué, qui sont habitués à faire des firmware et tout ça, et qui ont l'habitude du matériel.
Tout à fait. Oui, un BIOS, il faut être habitué au matériel. D'ailleurs, ce qui est très amusant, hein, c'est que le BIOS, ou le microprogramme de démarrage, c'est en fait un peu une sorte de logiciel embarqué qui tourne sur un système pas embarqué. C'est très étrange comme système, puisque en fait, t'as un logiciel qui est installé dans une petite puce flash sur la carte mère un peu isolée, communique avec le reste du système avec un protocole qui s'appelle SPI, et en fait, t'as l'impression que c'est un système embarqué, vraiment. Parce que ce truc-là est exécuté au tout début avec des ressources très contraintes, il n'y a pas de RAM, par exemple. Au début de l'exécution du BIOS, il n'y a pas de RAM. Donc il faut utiliser le cache du CPU comme une sorte de RAM, et voilà, très amusant, il n'y a que des choses très rigolotes avec ça.
Nous terminons ce tour des participants et participantes des rencontres hivernales du Libre de Saint-Sergue avec Raphaël Munoz, avec le sujet « Réseaux sociaux libres et fédérations ». Président de Faire Social Net, Raphaël Munoz héberge des alternatives libres et décentralisées aux réseaux sociaux, avec Mastodon, donc c'est l'instance qui s'appelle « Tooting.ch », avec PixelFed, aussi PeerTube, d'ailleurs sur leur PeerTube, vous pouvez regarder la diffusion et la rediffusion des conférences des rencontres. Il explique le principe de fédération qui permet de quitter une plateforme sans perdre ses liens. L'association fonctionne par cotisation, bénévolat et services gratuits pour reconstruire les réseaux sociaux comme des communs numériques. Nous écoutons Raphaël.
Et je viens aussi comme petit sponsor, vu que je suis le président de Faire Social Net, qui est
Socialnet.
Oui, qui est une association qui héberge des alternatives pour les réseaux sociaux libres, ouverts et respectueux de la vie privée.
Donc tu les héberges sur ton serveur ?
Alors non, on les héberge chez SwissNeutralNet, qui est un autre association qui sponsorise aussi les RHL et dont on est très proche. Donc on a l'exclusivité de l'hébergement chez eux. Ils voulaient justement pour qu'ils puissent regarder comment ça se passe, d'héberger quelqu'un en vrai. Et pour l'instant, tout se passe bien, donc on est content, très content d'être chez eux et tout passe bien.
Et Faire Socialnet, alors, tu dis que vous hébergez des alternatives, c'est ça?
C'est ça.
Comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu as un exemple qu'on puisse comprendre?
C'est très simple. En fait, on part du principe que de dire que quelque chose n'est pas bien, c'est pas suffisant, et on veut donner des alternatives aux gens. Donc on veut que quand on nous dit je veux pas être sur Twitter ou quand on dit Twitter,
je veux pas être sur Twitter.
Twitter, on puisse dire à la personne oui, pas seulement c'est pas bien d'être sur Twitter, mais voici Mastodon, c'est la même chose basiquement, c'est libre et voici comment tu peux y aller et te faire un compte sur Mastodon pour pouvoir rejoindre cette communauté qui est bienveillante et qui peut justement remplacer ce sens de communauté que tu peux retrouver sur d'autres plateformes.
Et du coup, avec Faire Socialnet, vous avez une instance Mastodon pour accueillir les personnes qui voudraient.
Donc, notre instance Mastodon, elle s'appelle tooting.ch.
Tooting.ch.
Exactement.
Un G à la fin?
Oui, et c'est notre service le plus utilisé parce qu'on a pas mal d'alternatives, on s'est développé depuis les années, mais ça reste notre service le plus utilisé, Mastodon, parce qu'on a aussi du Pixel Fed qui est l'alternative à Instagram.
Pixel Fed.
Pixel Fed, oui.
Fedé ?
Oui. Et on a du Peertube. C'est d'ailleurs sur ça.
Vidéo comme YouTube.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'est streamé les Rachel, les rencontres hivernales du Lib.
Mais parce qu'il y a quoi?
C'est en live. Ça veut dire que vous
les
pouvez.
Les conférences?
Exactement. Donc, vous pouvez suivre toutes les conférences en direct, en bon français, sur Peertube. Et ensuite, elles seront disponibles en vidéo à la demande sur peertube.ch.
C'était la dernière interview pour aujourd'hui. Nous avions d'autres interviews que nous n'avons pas eu le temps de diffuser. Vous pourrez les écouter dans la chronique à la rencontre du Libre dans les prochaines semaines. Je remercie les personnes interviewées de s'être exprimées au micro de Libre à vous. Vous les retrouverez certainement à l'occasion d'événements autour de Libre partout en France ou des pays voisins. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une nouvelle pitweet de Luc intitulée « Il nous faudrait une bonne guerre ».
La guerre menace. En Ukraine, elle dure depuis 4 ans et a fait 1 million de victimes. Satisfaite de sa performance, la Russie menace maintenant les États baltes ou la Pologne d'y développer des spin-offs. Les États-Unis empilent les porte-avions à proximité de l'Iran. Il est interdit de voir les génocides en cours pendant que la Chine continue à brutaliser ses voisins et à reluquer des petits culs sur les plages de l'autre côté du détroit de Taïwan. Les marchands d'armes ont le kiki tout dur. Mais il faut conserver l'esprit ouvert. C'est peut-être une bonne nouvelle. Si ça se trouve, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Si j'envisage cette hypothèse avec calme et aplomb, c'est que comme la plupart des gens qui font ce genre de déclaration, c'est pas moi qui irai. Mais bon, quand le monde part à volo, quoi de mieux pour remettre les pendules à l'heure et du plomb dans les cervelles qu'une bonne guerre? La guerre, c'est une question de survie. Plus de faux-semblants, plus de tergiversations. Mais faut voir. Le premier problème est que pour faire la guerre, il faut des militaires. Et l'armée française, ce sont des gens capables de publier une photo sur les réseaux sociaux avec des logins mots de passe affichés sur les murs, ou pire, de signer un accord Microsoft Défense avec la certitude que leurs secrets seront bien gardés. Mais les autres armées ne font guère mieux. Des terrachiers d'emails sensibles des forces spéciales américaines ont leaké à cause d'un serveur de mail mal configuré. Les militaires, ce sont aussi des gens qui partent en opération dans un pays hostile tout en publiant les traces GPS de leur séquence de jogging sur Strava. Le sport, ce n'est pas toujours aussi bon pour la santé qu'on le dit. Même les agents secrets se révèlent incapables de le rester, secrets. Ils se font pomper leurs données personnelles, comme nous tous, au point qu'il devient possible de les doxer. Mention spéciale au patron de l'unité 8200 israélienne, qui est parvenu à se doxer tout seul en publiant un livre sur Amazon. Récemment, du côté d'El Paso aux États-Unis, l'aéroport a été fermé en panique après que la base militaire proche ait tiré sans prévenir avec son gros laser sur des vilains drones lancés par des cartels. Sauf qu'après examen, il s'agissait d'un ballon Happy Birthday en perdition. Manifestement, la citation de Clémenceau « La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires » survit à tous les conflits. L'autre truc qui me fait douter, c'est que la guerre, elle aussi, est gaffamisée jusqu'au trognon. En Ukraine, les deux camps utilisent Starlink, et ce n'est que récemment qu'une liste blanche excluant les équipements utilisés par les Russes a été mise en place. L'effet a été immédiat. L'offensive russe a fortement baissé en intensité, et les Ukrainiens parviennent à regagner du terrain. En 2022, Elon Musk s'était vanté d'avoir bloqué une manœuvre ukrainienne visant la flotte russe. Autre inquiétude, sur le front, les troupes communiquent massivement avec des applications de chat et de visio bien connues, Zoom, Teams et consorts. Il faut parler aussi du fameux F-35, qu'on pourrait décrire comme un DRM volant, et qui est soupçonné d'être doté d'un kill switch. Même les analystes les plus optimistes estiment que l'avion serait inutilisable après 15 jours en cas de désaccord des États-Unis. Le seul à y croire est le secrétaire d'État à la défense des Pays-Bas, qui considère qu'on peut le jailbreaker comme un vulgaire iPhone. Peut-on vraiment croire que la guerre sera bonne si on se retrouve en situation de vie ou de mort et dépendant aux services américains? Par exemple, le 11 novembre 1918, l'armistice avait été signé vers 5h du matin pour une entrée en vigueur à 11h. Entre les deux, les états-majors ont ordonné de continuer le combat. 11 000 victimes pour cette dernière demi-journée d'une guerre déjà finie. C'est beau cette concordance des chiffres. En revanche, vendre des armes est une affaire rentable et on devrait être très inquiet de voir les mêmes entrepreneurs sans foi ni loi se lancer dans ce business avec délectation. Daniel Ek, fondateur de Spotify, et Peter Thiel, qu'on ne présente plus, sont déjà connus pour avoir sauté le pas. La Banque Européenne d'Investissement arrose désormais la Startup Nation qui se lance dans le business de la mort. Alors ok, on ne choisit pas toujours de faire la guerre et il faut pouvoir se défendre. Mais associer l'appétit insatiable pour le profit de la Startup Nation à une culture du sacrifice de la vie d'autrui constitue un combo inquiétant. J'ai parfaitement entendu notre chef d'état-major s'exprimer à propos de notre capacité à sacrifier nos enfants en novembre dernier. Mais je n'ai rien entendu sur notre capacité à sacrifier la rémunération des investisseurs, et ça ne me rassure pas.
Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Libre en fête, c'est l'appel à participation pour l'édition du Libre en fête 2026 qui aura lieu du samedi 7 mars au dimanche 12 avril. Toutes les organisations ayant à cœur la promotion du logiciel libre et de la culture libre sont invitées à proposer des événements de découverte partout en France dans une dynamique conviviale et festive. La campagne du pacte du logiciel libre, à l'occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, l'April propose aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement à promouvoir et défendre une priorité au logiciel libre et au format ouvert au sein de leur collectivité. Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter leurs candidates et candidats pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre. La radio Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial vendredi 6 mars 2026, donc vendredi 6 mars à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. C'est l'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour tous les événements autour du libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Laurent et Laurette Costi, Luc et les intervenantes et intervenants des rencontres hivernales du Libre. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne. Je remercie également les personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts avec Sébastien Choupin, Élodie Daniel-Giraudon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibault, Théocrite et Tounoui, bénévole à l'April et Frédéric Couchet. Merci également à Marie-Odile et le groupe de transcription qui permettent d'avoir une version texte de nos émissions. Il n'y aura pas d'émission inédite la semaine prochaine, à la place vous pourrez écouter une rediffusion. La prochaine émission en direct sera mardi 10 mars à 15h30 dont le sujet reste à définir. Nous vous souhaitons de passer une belle journée, portez-vous bien.
Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.